La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, Descartes, la connaissance cartésienne versus Maritain. Descartes, Maritain, le débat est profond. Puisque Maritain considère que les temps modernes commencent avec Descartes en philosophie et que Descartes marque toute la suite, aussi bien Kant finalement, que Hegel qui va répondre à Kant, que même la phénoménologie, puisque nous l'avions vu dans les semaines précédentes, Brentano qui tente de revenir au réel s'arrête à l'acte connaissant dans ses retrouvailles avec l'intentionnalité. Et on ne va pas jusqu'à l'objet. Quelle est donc la façon d'envisager la connaissance, le processus cognitif chez Descartes ? Maritain s'y arrête aussi bien en 1925, dans Trois réformateurs, qu'en 1931, à propos d'une conférence qu'il fera au studio russe sur Descartes, présentant la pensée cartésienne et je vous ai lu la semaine dernière des extraits de cette conférence parce qu'elle est plus facile d'accès pour des non-philosophes que Trois réformateurs, mais je tiens de temps en temps à vous lire un paragraphe un peu difficile, un peu technique, puisque la pédagogie de Jean-Sébastien Bastiat de Bach est la mienne. Bach conseillait à ses élèves de travailler trois œuvres, une très difficile, une moyennement difficile et une très facile. Vous comprenez qu'un élève a de temps en temps besoin de sentir que le plafond lui échappe et qu'il y a un sommet de la montagne, un Everest, qui est encore à atteindre. La pédagogie actuelle a peut-être fait une grave erreur en voulant se mettre absolument au niveau des enfants et petit à petit, il n'y a plus d'Everest, plus de plafond ouvert sur le ciel. Parenthèse. Revenons à Descartes. Revenons à la théorie cartésienne de la connaissance. Si notre connaissance est comme un écoulement dans notre esprit créé, de la véracité créatrice, si la sagesse dont nous portons à la nature de notre âme tous les germes innés est un pur déploiement de notre entendement, la science humaine doit être une, de l'unité même de l'entendement. Plus de diversité spécifique des sciences, et partant, plus de diversité spécifique de lumière réglant le jugement, plus de degrés variés de certitude. Vous voyez ici la critique que fait Maritain à Descartes. Cette mathesis universalis, cette mathématique universelle, cette science universelle, qui est le propre de le propos que se fait Descartes, le propre de la philosophie cartésienne, repose sur l'innéisme, c'est-à-dire le fait d'avoir des idées innées, c'est-à-dire d'être comme un ange, voire comme un dieu. Vous avez repéré peut-être la suppression de la diversité des sciences et surtout des degrés. 1932, réponse de Maritain, les degrés du savoir. Vous voyez comment on peut lire chez un auteur une gestation de sa pensée, 1925, Trois réformateurs, 31, la conférence au studio russe, et en 32, les degrés du savoir, pour mettre à plat finalement le cartésianisme. Maritain continue ainsi dans Trois réformateurs. Il en est bien ainsi pour l'ange, dont toutes les certitudes d'ordre naturel sont d'un unique degré, du degré même de perfection de sa propre immatérialité et de sa lumière innée. Le résultat, chez Descartes, est le plus radical nivelage des choses de l'esprit. Un seul et même type de certitude, raide comme la loi, s'impose à la pensée. Tout ce qui ne s'y laisse pas ramener est à rejeter, exclusion absolue de tout ce qui n'est pas mathématiquement évident ou censé tel. Connaissance inhumaine, parce qu'elle s'est voulue surhumaine. C'est là le principe, non seulement du brutal mépris affiché par Descartes à l'égard des humanités, du grec et du latin, de l'histoire, de l'érudition, de tout l'immense domaine des études positives et morales, que ses successeurs affoleront plus tard en voulant en faire une mathématique du contingent. C'est le principe et l'origine de la profonde inhumanité de notre science moderne. Vous voyez que Maritain n'y va pas par le dos de la cuillère, comme on dit vulgairement. Vous avez remarqué des phrases nominales, sans verbe, et avec des points d'exclamation, connaissance inhumaine. On sent qu'il est passionné. C'est une manière de faire de la philosophie qui n'est plus la philosophie actuelle, d'où peut-être une explication avec de multiples qui font que Maritain n'est pas vivant sur la scène philosophique universitaire et même mondiale. C'est maintenant la philosophie, c'est pour un mot, il faut beaucoup de notes en bas de page. Là, on a un jugement tranchant que d'aucuns pourront juger comme très personnel et pas du tout scientifique. Le problème, justement, c'est de définir ce qu'on entend par science. Et si on définit par science ce que Descartes a défini par science, alors forcément, Maritain n'est pas scientifique. Puisque pour lui, la reine des sciences, c'est la métaphysique. Au Moyen-Âge, la reine des sciences, c'est la métaphysique. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui s'occupe de l'universel le plus haut. La science la plus haute, selon Aristote, c'est celle qui ira le plus vers l'universel. L'histoire n'est pas une science parce qu'elle s'occupe du particulier. Et donc, s'occuper de l'universel, s'occuper des transcendentaux et de l'être. Et donc, la métaphysique est la reine des sciences. Du coup, on est dans un dialogue de sourds. Si on définit la science selon Descartes et qu'on exclut Maritain parce qu'il ne correspond pas au modèle de science cartésien, ben on ne peut pas du tout discuter. Peut-être qu'un jour, on arrivera à ouvrir notre notion de science en se disant qu'elle n'est pas suffisante. C'est peut-être actuellement, puisqu'on voit bien que le modèle scientifique il est périmable jusqu'à ce qu'il y ait un contre-exemple. C'est toute la falsifiabilité selon Popper qui dit qu'un modèle, tant qu'il n'est pas falsifié, reste prégnant jusqu'au jour où on a un contre-exemple qui va exiger un autre modèle, un autre paradigme. L'inconvénient de l'acte de connaissance chez Descartes, désigné par Maritain comme l'innéisme ou l'angélisme, les idées innées, eh bien, c'est qu'on va avoir une perte de l'objet. On va avoir un intellect qui va pouvoir tout seul fonctionner sans ce rapport au réel qui fait la philosophie réaliste. L'innéisme, faisant de l'intellect une puissance prédéterminée par nature à tous ses objets de savoir, ne souffre pas que notre entendement, pour produire une œuvre parfaite où que ce soit, dans l'ordre spéculatif ou dans l'ordre pratique, doive être intrinsèquement déterminé et élevé comme par une greffe en lui de l'objet à connaître ou de la fin à atteindre. Pas plus que chez l'ange dans l'ordre naturel, il n'y a de qualité élévatrice ou d'habitus dans l'intellect cartésien. Vous avez repéré dans cette phrase un parallélisme entre l'objet à connaître ou la fin à atteindre. La suppression de la fin à atteindre va, avec Descartes, va s'opposer à ce qu'on avait reçu d'Aristote, à savoir quatre causes, les trois causes héritées de Platon, et puis surtout la quatrième, qui est vraiment celle développée par Aristote, qui est la cause finale, c'est-à-dire la fin. Et cette fin, saint Thomas va s'y arrêter, va l'approfondir. Pourquoi ? Parce qu'elle correspond à la théologie chrétienne. Vous savez que nous sommes in via, c'est-à-dire en chemin, en pèlerinage, et que nous serons in patria après la mort. Et la patrie, c'est quoi ? C'est voir Dieu. Du coup, c'est la fin de la vie humaine, et au plan du monde, c'est la fin du monde dans la rédemption.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Avoir une vision finale de la vie personnelle et de la vie du monde, ça c'est vraiment le propre, on va dire, de la pensée chrétienne. Et avec Descartes, on a une fin, pour ainsi dire, de la finalité. Maritain va conclure ce paragraphe sur lequel nous sommes restés tout à l'heure, extrait des Trois Réformateurs, et il va le conclure avec une comparaison très mercantile en parlant de bon marché. Et je ne peux pas résister au plaisir de vous le lire. Forcément, les philosophes actuels ne peuvent pas lire ce genre de paragraphe de Maritain parce que on sent trop une passion, mais ça n'enlève pas l'intuition géniale de Maritain et peut-être sa vérité profonde. Donc nous étions restés sur le problème de l'habitus. Il n'y a pas d'habitus dans l'intellect cartésien. Qu'est-ce que c'est qu'un habitus ? Eh bien un habitus, c'est justement quelque chose qui vient à force de faire. Dans un autre ordre, l'ordre pratique, là nous sommes dans l'ordre spéculatif de la connaissance, dans l'ordre pratique, Maritain développera l'habitus de manière très très claire dans Art et Scolastique et plus tard en 53 dans l'intuition créatrice dans l'art et la poésie, à propos de l'artiste qui ne peut faire une peinture ou un morceau de musique ou une composition que s'il acquiert un habitus dans son art. Et cet habitus, il est régi par les règles de l'art. Et l'intuition créatrice viendra, au sein même de ces règles de l'art, les transfigurer, les transporter, les dépasser. Mais s'il n'y a pas d'habitus, il ne peut pas y avoir d'idée géniale. Du coup, l'habitus est remplacé par quoi ? Eh bien, Maritain nous donne la réponse avec cette savoureuse comparaison. À vrai dire, ce ne sont pas seulement les secours de la via disciplinae. C'est aussi et surtout la vigueur intérieure des habitus qu'il s'agissait de suppléer par le succès garanti du procédé et de la recette. Ainsi, le bon sens suffira à tout. Le magasin des idées claires est le bon marché de la sagesse. Après Descartes, les prix monteront de nouveau, et cette belle facilité universelle fera place aux plus redoutables complications. Mais c'est toujours à la méthode, ou aux méthodes, et non plus à la qualité spirituelle ennoblissant l'intellect, que se mesurera l'austérité du savoir. Nous voyons de nos jours les réjouissants effets de cette matérialisation de la science et l'étonnante indigence intellectuelle qu'un progrès, admirable en lui-même, de la spécialisation technique et des procédés opératoires est capable de procurer, quand la flamme reste débile sur laquelle sont jetés des monceaux de bois verts. On sent qu'il est filleul de Léon Blois, c'est absolument superbe, cette comparaison donc très mercantile qui renvoie bien à une industrialisation et du coup à un savoir cartésien qui va s'épanouir dans la méthode. Et la perte, c'est la qualité spirituelle qui est perdue. Dans l'habitus, cela renvoie à une intériorité. On est confronté à tout seul, soit à l'objet. Donc c'est la personne qui est renvoyée à elle-même. Vous le voyez, c'est un pianiste, un musicien, il a besoin d'être seul avec son instrument. Un peintre aussi, et en silence. C'est une confrontation personnelle, sinon on ne peut pas créer. La méthode, elle se veut universelle, et tout le monde est face à la même méthode, il n'y en a qu'une. Apprendre l'anglais en s'amusant, ou je ne sais quoi. Voilà, on est tous confrontés. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une méthode. Quand Louis XIV fonde l'Académie royale des beaux-arts, c'est bien pour donner une méthode, mais une méthode qui va surtout concerner le dessin. Parce que le dessin est maîtrisable, la couleur l'est beaucoup moins. Donc on peut se poser aussi la question de la maîtrise. Voilà, c'est des questions qui sont propres au XVIIe siècle, un siècle de Descartes, et qui sont prégnantes pour les temps modernes. Vous le sentez ici, on anticipe, mais Maritain va développer toute une philosophie de l'éducation. En 59, on a un magnifique ouvrage sur l'éducation qui est repris dans sa deuxième édition en 69, juste après 68. Et il va se nourrir de l'apport de sa réflexion à propos des événements de mai 68, insistant dans l'éducation sur l'intériorité. La fonction du maître, c'est finalement de faire naître l'intériorité chez l'élève. Vous sentez la différence ? Avec une méthode, une acquisition rapide des moyens pour remplir une tête. Rabelais disait déjà, c'est bon, le propre c'est d'enflammer des cœurs et pas de remplir des têtes, a fortiori chez Maritain, il s'agit de toucher le soi profond qui est le lieu du soi spirituel. Pour en terminer avec cette philosophie de la connaissance chez Descartes, Maritain va encore aller un cran plus loin à propos de sa réflexion sur l'innéisme, donc ses idées innées, et il va conclure en disant que c'est un radical départ, une scission, une rupture entre les choses, les objets, l'objet à connaître et le sujet. Le caractère le plus profond de la connaissance angélique, voire cartésienne, ce n'est pas d'être intuitive ni d'être innée, c'est d'être indépendante des choses. Les idées des purs esprits sont sans proportion avec les nôtres, ne se résolvant pas dans la vérité des choses, mais dans celle même de Dieu, il s'agit des anges. Ces idées infuses sont une ressemblance créée, et comme une réfraction dans l'intellect angélique des idées divines et de la lumière incréée où tout est vie, en sorte qu'elles représentent les choses en tant même que celles-ci dérivent des idées divines, les anges ayant ainsi reçu au premier instant le sceau de la ressemblance qui les a fait pleins de sagesse et parfaits en beauté. Et Dieu, selon le mot d'Augustin, ayant produit les choses intelligemment dans la connaissance des esprits, avant de les produire réellement dans leur être propre. Aussi bien, ces idées, à la différence de nos idées abstraites, sont-elles universelles, non par l'objet qu'elles présentent immédiatement à l'intelligence, mais seulement par le moyen qu'elles constituent d'atteindre sous un même angle une multitude de natures et d'individus distinctement saisis jusque dans leur ultime différence. Leur universalité n'est pas l'universalité de représentation due au procédé abstractif, mais l'universalité de causation ou d'activité propre aux idées créatrices, d'où les choses descendent dans l'être, et dont les idées de l'ange sont une similitude taillée à la mesure de celui-ci. Vous le sentez ? Vouloir calquer l'ange alors qu'on est homme a pour corréla de ne plus s'occuper de l'objet. Et le deuxième corréla, c'est de gommer, d'éclipser la connaissance abstractive, c'est-à-dire conceptuelle. Et Maritain se battra toute sa vie contre le cartésianisme, en particulier dans Approche sans entrave, qui est un recueil de textes qu'il tenait à éditer avant sa mort. Il porte le manuscrit en janvier chez Fayard et il meurt le 28 avril 1973. Et Approche sans entrave est une œuvre publiée à titre posthume. Eh bien, dans Approche sans entrave, Maritain revient sur Descartes à propos justement du concept. Et il dit finalement, Descartes n'a pas du concept, parce qu'il a gommé la capacité abstractive qui est le propre de l'homme, en voulant mimer l'ange. Il a des notions, et l'inconvénient de la notion, c'est qu'elle est lestée par l'imagination. Pour rappel, les sens externes sont le premier outil pour la connaissance, qui va aller vers le concept au moyen des sens externes, internes, qui sont l'imagination, la mémoire. Mais si l'image qui vient du sens et qui va permettre l'abstraction conceptuelle n'est pas délestée finalement des sens internes, elle reste encore impure. Le concept a besoin d'une pureté. Eh bien, chez Descartes, Maritain va prouver que son abstraction reste lestée de l'imagination. Et il appelle ça une notion opposé au concept. Donc on le voit, la dimension cognitive, la manière de connaître cartésienne, décrite par Maritain, est un décalque de l'ange avec des inconvénients majeurs. Nous en étudierons deux après la belle plage musicale de Poulenc pour la 11e improvisation.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Les deux conséquences qui restent à montrer de la part de Maritain pour critiquer la connaissance cartésienne, c'est qu'au fond, Descartes va mimer l'ange et va mimer Dieu. Mais l'ange avait une connaissance noble, éminente du singulier, parce qu'il était habité par la lumière. Mais Descartes, au contraire, va arriver à un flou, à une illusion. Descartes, il paraît clair que les idées générales sont à ses yeux des notions essentiellement incomplètes. La science humaine, pour être parfaite, doit atteindre des essences singulières saisies directement. Un moyen de pensée universelle à la manière angélique, à la bonne heure. Un objet de pensée universelle, une quiddité abstraite dont un retour sur les images nous fait seul connaître le monde singulier de réalisation, cela n'est pas digne d'un esprit à qui toute la matière est soumise. À peine indiqué chez Descartes, cette méconnaissance de la nature et de la valeur de l'universel proprement humain, cette sorte de nominalisme intellectuel prendra tous ses développements avec Leibniz et Spinoza et deviendra chez eux un des signes de la revendication d'angélicité qui caractérise l'intellectualisme absolu, en attendant que, tombant dans des têtes anglaises et rejoignant le vieux nominalisme sensualiste, elle contribue à ruiner toute saine notion de l'abstraction. Vous l'avez compris, les deux conséquences, c'est perte de l'abstraction et avancée du nominalisme. À la semaine prochaine.